d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Au Cameroun, 24 civils ont été tués par des hommes armés dans le sud-ouest anglophone. Une sénatrice, otage depuis un mois, a été libérée par l'armée. Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, appelle l'Union européenne à agir pour libérer les stocks de céréales bloqués en Ukraine par le conflit. Les 27 pays de l'UE se sont eux accordés pour réduire de 90% leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Ici, aux États-Unis, enterrement des premières victimes de la tuerie d'Uvalde au Texas. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Au Cameroun, 24 civils ont été tués et une soixantaine blessés dimanche par des séparatistes présumés dans le sud-ouest, affirment les autorités locales. Des rebelles armés ont attaqué avec des armes à feu le village d'Oboni 2, près de la frontière avec le Nigeria, a rapporté Ekwale Martin, maire de la localité, évoquant un bilan de 24 morts et au moins 62 blessés. L'attaque a été confirmée par un membre de l'administration locale qui a requis l'anonymat. Toujours au Cameroun, l'armée affirme avoir libéré plusieurs otages, dont une sénatrice du parti présidentiel enlevée il y a un mois dans l'ouest du pays. L'armée camerounaise dit aussi avoir tué une dizaine de leurs ravisseurs présumés. Le point avec Rosine Munezero.
Dans une opération de l'armée à Achang, dans le nord-ouest, plusieurs otages ont été libérés, dont la sénatrice Elisabeth Regina Mundi a affirmé mardi l'armée. Mundi, 79 ans, et son chauffeur ont été kidnappés le 30 avril par des séparatistes anglophones des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une dizaine de terroristes ont été tués selon le communiqué de l'armée qui ne précise pas le nombre ni l'identité des autres otages libérés. La sénatrice Mundi, originaire du Nord-Ouest, est membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, au pouvoir. En janvier dernier, le corps d'un sénateur de l'opposition, l'avocat Henri Kemende, a été retrouvé criblé de balles à Bamenda après l'attaque de sa voiture qui avait disparu. Les autorités avaient accusé les séparatistes, mais ce meurtre n'a jamais été revendiqué.
En Centrafrique, un employé local de Médecins sans frontières a été abattu samedi à son domicile par un membre des forces armées centrafricaines, selon l'ONG. Mahamat Ahamat, qui était distributeur de médicaments, a été touché à 3 reprises à Moyenne Sido, à 500 km au nord de Bangui, près de la frontière tchadienne. MSF appelle les autorités à clarifier les circonstances qui ont conduit à ce meurtre. Kinshasa a réaffirmé hier que Kigali soutenait la rébellion du M23 mais a refusé de fermer toutes les portes de discussion. Des manifestants ont réclamé hier dans la capitale congolaise l'expulsion de l'ambassadeur rwandais. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Les forces armées burkinabées ont annoncé avoir tué la semaine dernière un chef djihadiste, Tidiane Djibrilou Diko, qui dirigeait une unité combattante du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Tidiane Djibrilou Diko a été neutralisé avec une dizaine d'autres terroristes lors d'une frappe aérienne effectuée le jeudi 26 mai près de Tongo-Mayel, dans la province du Soum, a déclaré une source sécuritaire proche de l'état-major de l'armée. Transfuge du groupe État islamique au Grand Sahara, Tidiane Djibrilou Diko avait rejoint le GSIM au milieu de l'année 2021, poursuivant les attaques d'envergure contre les populations et les forces armées dans la zone de Djibo. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté aujourd'hui à l'unanimité une résolution pour intensifier la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée qui coûterait près de 2 milliards de dollars par an à la région. Rédigée par la Norvège et le Ghana, membres non permanents du Conseil, la résolution condamne la piraterie et les vols à main armée en mer, y compris les meurtres, enlèvements et les prises d'otages dans le golfe de Guinée. Le président de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, s'inquiète des conséquences des sanctions européennes pour exclure des banques russes du système international SWIFT et a appelé les 27 à agir pour libérer les stocks de céréales bloqués en Ukraine. Nous faisons le point avec Ginny Niwa.
Dans le cadre d'un sixième paquet de sanctions contre Moscou, l'Union européenne a décidé aussi de sanctionner la principale banque russe, la Sberbank, pour l'empêcher de faire des opérations cruciales comme des ordres de transfert de fonds via la plateforme de messagerie SWIFT. Quand le système SWIFT est perturbé, cela veut dire que même si les produits que l'on va acheter sont sur le marché, le paiement devient compliqué, voire impossible. Je voudrais insister pour que des solutions idoines soient trouvées, a déclaré Macky Sall. Il souligne que la flambée des prix des engrais pourrait provoquer un effondrement de 20% à 50% des rendements céréaliers en Afrique cette année. Le président en exercice de l'Union africaine demande aussi aux 27 de tout faire pour libérer les stocks de céréales disponibles en Ukraine, mais bloqués en raison de l'offensive russe. On est en train de voir comment sortir les 20 millions de tonnes de blé ukrainien et ce n'est pas facile, lui répond Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'embargo européen sur le pétrole russe est dans tous les esprits. Plusieurs dirigeants européens ont plaidé pour une pause, mais certains pays comme la Hongrie ont exclu l'adoption d'une telle mesure. Les précisions de John Linden.
Le sixième paquet de sanctions est un grand pas en avant et je pense que nous devrions faire une pause maintenant, a déclaré le premier ministre belge Alexander De Croo à son arrivée pour la seconde journée du sommet à Bruxelles. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont trouvé un accord lundi soir qui devrait permettre de réduire de quelque 90% leurs importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année. Ce paquet, mettons-le d'abord en pratique, a dit le premier ministre belge, précisant qu'avec le gaz, c'est beaucoup plus compliqué. En 2021, la Russie a fourni 30% du brut et 15% de produits raffinés à l'Union européenne. Elle fournit aussi annuellement 150 milliards de mètres cubes de gaz, soit 40% des importations européennes, dont une bonne partie à l'Allemagne. Pour le moment, Bruxelles refuse de payer ses achats de gaz en roubles, comme l'exige Moscou, estimant qu'il s'agit d'une violation des sanctions.
Ici aux États-Unis, une semaine après la fusillade dans une école d'Uvalde, la petite ville texane enterre ses premières victimes, les premières victimes de cette tuerie, l'une des pires ces dernières années dans le pays. Nous faisons le point avec Nanit Talani.
Funérailles des 19 enfants et deux enseignantes tuées le 24 mai sous les balles de Salvador Ramos, 18 ans à peine, vont s'étendre jusqu'à la mi-juin. L'une des premières cérémonies a été hier celle d'Ameri Jo Garza, une fille qui venait de fêter son 10e anniversaire et qui rêvait de devenir professeur d'art. Des proches et des personnes, parfois venues d'autres villes, lui ont rendu un dernier hommage dans une maison funéraire en face de l'école primaire où a eu lieu le drame. Puis vont suivre les funérailles de Maïté Rodriguez, elle aussi 10 ans, qui voulait devenir biologiste de la vie marine. Sa mère a écrit sur Facebook avoir perdu sa meilleure amie. À Washington, le président Joe Biden, qui a visité la petite ville ce week-end, promet de répondre aux appels désespérés pour la réforme en continuant à pousser pour une régulation plus stricte des armes à feu. Mais passer des mots aux actes sera plus difficile vu l'étroite majorité de son parti au Congrès.
Israël et les Émirats arabes unis ont signé aujourd'hui un accord historique de libre-échange, le premier du genre, entre l'État hébreu et un pays arabe. Les deux pays ont normalisé leurs relations diplomatiques en 2020. Cet accord abolit les barrières douanières pour 96% des produits échangés entre les deux parties, dont les échanges commerciaux se sont chiffrés à 900 millions de dollars en 2021, selon les données officielles israéliennes. Au Brésil, les pluies diluviennes qui ont causé des inondations et des glissements de terrain autour de Recife dans le nord-est ont fait au moins 100 morts. Plus de 400 pompiers ont été mobilisés et 6000 personnes ont perdu leur logement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nanit Talani.
Diminution du taux de chômage à 34,5% au premier trimestre de cette année en Afrique du Sud. C'est la première baisse depuis près de 2 ans, annonce ce mardi l'Agence gouvernementale des statistiques. Quelque 370 000 emplois ont été créés entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022 dans les secteurs des services communautaires et sociaux, l'industrie et le commerce. Brazzaville organise depuis hier son premier forum sur le partenariat public-privé visant à inciter les acteurs privés nationaux et étrangers à investir au Congo. Selon les dépêches de Brazzaville, c'est l'occasion pour le gouvernement et les experts de présenter les différentes opportunités d'investissement dans les principaux secteurs dont l'agriculture, le développement industriel, les zones économiques spéciales, le tourisme, l'économie numérique et la promotion immobilière. Pour terminer, les recettes de la tarification du carbone ont augmenté de près de 60% en 2021 par rapport à 2020 pour atteindre environ 84 milliards de dollars selon un rapport annuel de la Banque mondiale. Ces recettes constituent une source importante de fonds pour permettre de soutenir une reprise économique durable, de financer des réformes budgétaires plus larges ou d'investir dans les communautés locales dans l'objectif de favoriser la transition vers un avenir décarboné.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous.
Le Wydad de Casablanca, champion d'Afrique.
En finale hier, dans leur ville, les Marocains se sont imposés 2-0 devant les doubles tenants du titre, les Égyptiens d'Al Ahly. Le Wydad de Casablanca remporte ainsi son troisième trophée dans cette compétition. Après les éditions de 1992 et 2017, les Égyptiens ont déjà remporté ce trophée à 10 reprises, dont les deux dernières éditions, et visaient donc un historique triplé. C'est raté pour cette année.
La Fédération française et l'UEFA évaluent à 2800 les faux billets scannés samedi.
C'était lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France. Parmi ces 2800 faux billets peuvent figurer des vrais billets ayant été mal activés selon l'avocat Pierre Barthélemy. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué une fraude massive, industrielle et organisée de biens qui serait à l'origine du chaos, évoquant 30 000 à 40 000 supporters anglais au Stade de France, soit sans biens, soit avec des biens falsifiés. Mais le ministre s'est contenté de donner un pourcentage de 70% de faux biens papier détectés au préfiltrage côté anglais, sans donner de chiffres. Le président du club de football de Liverpool, Tom Vermeer, réclame des excuses au gouvernement français pour avoir imputé aux fans des Reds la responsabilité des scènes chaotiques.
Karim Benzema mérite le ballon d'or, selon Lionel Messi.
D'après l'Argentin, il n'y a pas de doute sur le fait que l'attaquant français du Real Madrid mérite le ballon d'or cette année. Il est très clair que Benzema a fait une année spectaculaire et qu'il a terminé de manière grandiose en remportant la Ligue des Champions, estime Messi, 7 fois ballon d'or sous les couleurs du FC Barcelone. Lionel Messi a fait cette déclaration à l'occasion de la finalissima qui va opposer demain mercredi à Wembley l'Argentine victorieuse de la dernière Copa América à l'Italie, championne d'Europe l'été dernier. Le ballon d'or sera remis le 17 octobre prochain à la suite d'un vote des journalistes dans les 100 premiers pays du classement FIFA. Seules les performances de la saison 2021-2022 seront prises en compte.
Le président de la Ligue professionnelle de football espagnole va déposer une plainte contre le PSG.
Oui, Javier Tebas dit que la plainte auprès de l'UEFA concernant la prolongation du contrat de Kylian Mbappé au PSG est déjà rédigée et réaffirme qu'il en déposerait une autre auprès de la justice française. Nous n'allons pas permettre à un club européen de détruire l'écosystème du foot européen, a insisté Tebas, rappelant que le PSG a perdu 300 à 400 millions d'euros au cours des 3 dernières saisons. Selon la Direction nationale de contrôle des finances du football français, le Paris Saint-Germain aurait enregistré une perte d'environ 225 millions d'euros lors de la saison 2020-2021, marquée par la pandémie. Cette année, c'est l'équipe qui le dit, pas moi, il va passer à 600 millions d'euros de masse salariale. Il va terminer la saison avec une perte de 300 millions d'euros, a ajouté Tebas. Il a aussi dénoncé les clubs État comme le PSG, dont le propriétaire est une filiale du Fonds souverain du Qatar.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. La MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, note ce qu'elle appelle hausse exponentielle du nombre de civils tués et des violations des droits humains au premier trimestre cette année. La MINUSMA met en cause l'armée et des militaires étrangers sans donner de précision sur leur identité. Le ministère malien des Affaires étrangères fustige, je cite, des allégations tendancieuses, non recoupées et ne s'appuyant sur aucune preuve tangible. Abdourahman Diadj, à Bamako, Aguibou Bouaré, président de la Commission nationale des droits de l'homme.
Bon, moi je relativise tout d'abord. Hein, en fait, je ne vois pas à travers ces rapports une mise en cause de l'armée. En réalité, la division des droits de l'homme, représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme au Mali, produit périodiquement des rapports sur la situation des droits de l'homme au Mali. Donc ce n'est pas un premier rapport, ce n'est pas un premier événement. Et toutes les organisations de défense des droits de l'homme du Mali font la même chose du reste. Maintenant, par rapport à la hausse des cas de violation ou d'abus des droits de l'homme, bon, c'est une réalité. Malgré les efforts réels consentis par l'État à travers l'équipement des forces armées et de sécurité, il est évident aujourd'hui que nous enregistrons régulièrement des cas de violation et d'abus des droits de l'homme.
Qu'est-ce que une association comme la vôtre fait pour essayer de limiter ces violations? Et est-ce qu'il y a des séances de formation ou des discussions avec l'armée, par exemple, pour éviter des victimes innocentes des civils?
Exactement, ça c'est vraiment l'une de nos missions. En réalité, nous sommes l'Institution nationale des droits de l'homme, nous ne sommes pas une association. Donc notre rôle, c'est vraiment de faire des enquêtes et puis des investigations à chaque fois que nous apprenons des violations des droits de l'homme ou des abus des droits de l'homme. Et nous devons jouer le rôle de conseil auprès de l'État. Et pour amener l'État à rétablir la réalité des faits par rapport aux allégations de violation des droits de l'homme.
Et par contre, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué avec les groupes terroristes, les groupes armés.
Exactement, c'est un peu difficile à ce niveau, mais à travers la communication, à travers les médias, nous sommes convaincus que les groupes armés aussi ont accès vraiment à certains aspects des droits de la guerre, des droits internationaux humanitaires. La preuve, certains font des prisonniers. Ils font des prisonniers, ça veut dire qu'ils ont connaissance d'un certain nombre de règles du droit international humanitaire. Mais au-delà, nous prenons ce qu'on appelle la lutte contre l'impunité. Et nous encourageons l'État à combattre les terroristes et tous les groupes armés, même dans le strict respect des droits de l'homme. Donc la nuance, c'est à ce niveau.
C'était Aguibou Bouaré, président de la Commission nationale des droits de l'homme au Mali.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
L'armée camerounaise affirme avoir libéré une sénatrice et d'autres otages enlevés depuis un mois par des séparatistes présumés. Reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé, récit de Nanit Talani.
L'armée camerounaise dit avoir réussi à sauver la sénatrice Regina Mundi après deux jours de combat avec les rebelles qui l'avaient prise en otage. Le porte-parole militaire, Serge Cyril Atongfak, affirme dans un communiqué que les affrontements ont eu lieu dans le district de Batibo, dans la région du Nord-Ouest. Selon lui, les séparatistes ont tenté dimanche d'échapper aux troupes gouvernementales qui avançaient avec six otages, dont la sénatrice Regina Mundi. Selon lui, les séparatistes ont tenté dimanche d'échapper aux troupes gouvernementales qui avançaient avec six otages, dont la sénatrice Regina Mundi. Il soutient que les troupes ont tué 10 séparatistes et capturé 3, précisant que tous les anciens otages sont sains et saufs. L'armée n'a pas identifié les autres otages, mais affirme qu'ils reçoivent des soins médicaux. des groupes de défense des droits de l'homme saluent la libération de la sénatrice Regina Mundi après un mois de captivité. Moumabi Yvonne, du Mouvement des femmes pour la paix.
J'espère qu'elle est en bonne santé. Pour ceux qui ont pris Mundi et l'ont gardé aussi longtemps, je prie pour que vous changiez d'état d'esprit. Vous perpétuez la douleur et la souffrance des gens. Je félicite ceux qui ont réussi à la faire libérer.
Un porte-parole des séparatistes a confirmé que les troupes gouvernementales ont libéré Regina Mundi et d'autres otages, mais ni l'affirmation de l'armée selon laquelle des combattants ont été tués et capturés. Capo Daniel est chef adjoint de la défense des forces dites de défense de l'Ambazonie. Il accuse les militaires d'avoir abusé des civils lors des raids de ce week-end.
Des centaines de militaires camerounais ont brutalisé notre population civile, les ont rassemblés et leur ont lié les mains derrière le dos. Des femmes ont été torturées, des maisons ont été fouillées, des occupants ont été ligotés et forcés de s'asseoir sur les places de la ville où ils n'étaient pas autorisés à avoir accès à la communication. Aucun de nos soldats n'a été tué ou capturé.
Aucune des affirmations de Capo Daniel n'a pu être confirmée de manière indépendante. Un habitant qui n'a pas voulu être identifié par crainte de représailles a confié à VOA que les deux parties ont commis des abus et détenu des civils pendant ces affrontements. Pour sa part, l'armée nie tout abus. Des hommes armés ont enlevé la sénatrice Regina Mundi avec son chauffeur à Baminda, capitale de la région anglophone du Nord-Ouest, le 30 avril. Les rebelles ont accusé Madame Mundi de collaborer avec le gouvernement central, exigeant la libération de 47 de leurs membres arrêtés en échange de sa libération, ce que le gouvernement a refusé. Des troubles dans les régions occidentales anglophones du Cameroun ont éclaté en 2016 après que des enseignants et des avocats ont protesté contre la domination du français dans le pays officiellement bilingue. Selon l'ONU, les affrontements entre les deux parties ont déjà fait plus de 3 300 morts et quelques 750 000 déplacés.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, Kinshasa convoque l'ambassadeur du Rwanda pour lui faire part de sa désapprobation quant au soutien qu'il accuse son voisin d'avoir face aux rebelles du M23 dans l'est du pays. Le porte-parole du gouvernement fait savoir aussi que la RDC reste ouverte au dialogue. Eddy Sango a joint à Bruxelles Emery et Calvira, dirigeants de la coalition des Congolais pour la transition.
On ne peut rien attendre de cette convocation de l'ambassadeur Karega par les autorités de Kinshasa. Il est vrai que toutes les guerres, gagnées ou perdues, terminent toujours par les négociations et les accords. Nous assistons à une guerre d'agression et d'usure la plus longue et la plus meurtrière depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les coûts du pillage de cette guerre en ressources naturelles se calculent par milliards en dollars, alors que la population congolaise elle-même croupit dans une misère. Plus de 12 millions de morts, plus de 20 millions de Congolais ont fui leur pays à cause de ces conflits. Et nous pensons que s'il faut négocier aujourd'hui, il faut que soit posé le vrai problème. Et nous pensons que les narratifs souvent utilisés par le Rwanda et l'Ouganda pour intervenir militairement sur le territoire congolais a montré ses limites. Parce que les autorités congolaises ont très récemment autorisé aux autorités rwandaises d'intervenir militairement sur le sol congolais et d'endiguer ce qu'ils appellent FDLR. Tous les leaders des FDLR ont été neutralisés par l'armée rwandaise, autorisés par le régime de M. Tshisekedi, au mépris d'ailleurs du droit international humanitaire de protection des réfugiés politiques. Donc nous pensons que s'il faut une nouvelle négociation, ça doit être une négociation qui mette fin à la souffrance des populations congolaises.
Et comment voyez-vous le fait que, en même temps que le Congo, Kinshasa prend des décisions, comme par exemple
suspendre les vols de Rwandais et d'autres décisions et en même temps parle des négociations.
Non, il y a des accords secrets et des accords officiels qui ont été signés entre le régime de M. Kagame et celui de M. Félix Tshisekedi, soi-disant pour essayer de pacifier cette partie du pays, l'est du Congo, mais nous constatons que ça se solde par un échec puisque ces accords n'ont pas encouragé M. Kagame à aller vers la paix.
L'actuel président de l'Union africaine, Macky Sall, le Sénégalais, a parlé, a discuté avec le président congolais, Félix Tshisekedi, mais aussi avec Paul Kagame, et a recommandé que les conflits soient maintenant traités au niveau de la sous-région avec le président de la CIRGL, le président angolais, João Lourenço. Que peut-on attendre de cette discussion?
Mais si le conflit s'exporte vers les pays voisins pour trouver la solution, cela voudrait dire que nous devons aller dans la voie demandée par l'ensemble des Congolais, y compris le prix Nobel de la paix congolais, Denis Mukwege, c'est-à-dire exhumer le rapport Mapping. Et ce rapport Mapping, vous le savez, implique beaucoup de responsables militaires, aussi bien rwandais que régionaux, et des militaires, des officiers de haut rang qui opèrent jusqu'à présent dans le commandement des forces armées de la République démocratique du Congo.
Emery Kalwira, dirigeant de la coalition des Congolais pour la transition. Au Togo, le gouvernement ambitionne de planter 23 millions d'arbres cette année pour augmenter le taux de couverture végétale qui se situe aujourd'hui à 24%. La campagne de reboisement commence aujourd'hui. L'objectif est d'atteindre une couverture forestière de 25% en 2025 et de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. De Lomé, le reportage de notre correspondant Kossi Wousou.
À la journée de l'arbre instituée depuis 1977, où chaque Togolais est prié de planter au moins un arbre pour lutter contre l'avancée du désert, le gouvernement lui a substitué depuis 2021 la campagne annuelle de reboisement avec pour objectif de planter 1 milliard d'arbres en 2030. Mais après la première expérience, le compte n'y est pas. Folie Bazi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières.
Pour la campagne 2021, nous avons noté une forte mobilisation de la population. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que cette mobilisation que nous avons constatée le premier s'est estompée au fur et à mesure qu'on avançait. Nous pouvons vous dire que sur toute l'étendue du territoire, nous avons enregistré 3 333 arbres qui ont été mis en terre uniquement pour la campagne 2021. Et cette année, nous nous sommes dit qu'on pourra aller jusqu'à 23 millions.
Pour atteindre cet objectif, 133 000 hectares de terre ont été mobilisés. Nimon Pacha, le président de l'association des reboiseurs privés du Togo, estime que lui et ses camarades ont un rôle important à jouer pour que le pays retrouve son couvert forestier.
Le ministère de l'Environnement a fait une étude et a prouvé que le reboisement effectué jusqu'à ce temps est à 60 millions d'hectares. Or, dans les 60 millions, il y a 40 millions d'hectares qui sont faits par les planteurs privés que nous sommes. C'est pour ça que nous sommes tous là.
La campagne de reboisement est aussi une aubaine pour les femmes qui s'organisent de leur côté pour bien de raisons propres à elles. Brigitte Akakpo Adra de Women Environmental Program.
Nous sommes très engagés au niveau de nos organisations dans les régions et au niveau des préfectures dans cette noble mission de reboiser 1 milliard de plants d'ici 2030. Les femmes ont opté pour l'agroforesterie.
Le gouvernement fait savoir qu'il mettra à contribution les 117 communes du Togo à hauteur de 4 hectares à reboiser par municipalité pour faire progresser substantiellement le couvert végétal au Togo. Ce 1er juin, premier jour de la campagne de cette année, 1 million de plantes seront mises en terre, promet le ministre de l'Environnement. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.